C'est pas faux. L'émission qui vulgarise sans être vulgaire.
Ouais, c'est pas faux.
Bonjour tout le monde, bonjour Cindy.
Bonjour Rose, bonjour à tous et à toutes.
Bienvenue dans ce nouvel épisode de C'est pas faux, l'émission de culture scientifique de Radio Phoenix.
Nous sommes ravis de vous accompagner aujourd'hui comme chaque mardi à midi pour parler science avec différents invités. Nous sommes le mardi 20 mai et aujourd'hui nous allons parler de la biométrie.
Elle permet de reconnaître automatiquement un individu à partir de ses caractéristiques physiques, biologiques ou encore comportementales. La biométrie est particulièrement utile dans le domaine de la cybersécurité. C'est elle par exemple qui est à l'œuvre dans les systèmes de reconnaissance faciale. Mais alors comment obtient-on des données biométriques? Sont-elles infaillibles et comment les rendre plus sûres?
Pour en parler, nous accueillerons Christophe Rosenberger, professeur à l'ENSICAN et directeur du laboratoire grec. Mais avant cela, c'est l'heure des infosciences de la semaine. Et on commence avec la conception d'un robot intelligent capable de remplacer les chiens guides.
Entre les frais vétérinaires, la formation de l'animal et la retraite après environ 8 ans de service, le chien guide ne peut pas être une solution pour tous. C'est pourquoi des chercheurs de l'Université nationale de Singapour se sont mis au défi de trouver une alternative, une machine à 4 pattes, avec ou sans tête, dotée d'un cylindre noir. Équipée d'un ordinateur de bord et de puces électroniques, elle pourrait analyser son environnement, suivre des itinéraires et interagir vocalement avec l'utilisateur.
Mais ce chien robot est encore en phase d'expérimentation.
Exactement. Les machines sont actuellement en entraînement sur le terrain avec des personnes malvoyantes à Singapour. L'objectif, s'assurer qu'elles sont bien en capacité de reconnaître différents environnements comme les supermarchés par exemple. Si ces tests sont un succès, ces chiens robots pourraient bien être distribués à l'international. C'est une première mondiale dans la médecine, un bébé atteint d'une maladie rare a été sauvé grâce à une thérapie génétique révolutionnaire.
Âgé de 9 mois, Keiji souffrait d'une anomalie sur l'un de ses gènes qui empêchait son foie d'éliminer certains déchets comme l'ammoniac. Cette pathologie génétique extrêmement rare touche environ un bébé sur 1 million et se révèle mortelle dans la moitié des cas. Contre toute attente, les chercheurs ont réussi à guérir le nouveau-né de cette maladie orpheline. En quelques mois seulement, ils ont créé un traitement personnalisé qui a permis de corriger son erreur génétique.
Mais comment les médecins s'y sont pris pour créer ce remède ?
Ils ont utilisé une nouvelle technique appelée l'édition de base. Concrètement, ils ont injecté une enzyme pour cibler précisément le gène défectueux dans l'ADN et le corriger sans toucher au reste du génome. Après 3 injections, Keiji semble bien se porter et ne présente aucun effet secondaire. Le premier succès de cette méthode de thérapie sur mesure est prometteur. Ce genre de traitement pourrait permettre de guérir plusieurs centaines, voire milliers de maladies génétiques rares. Des scientifiques pourraient mettre au point un antivenin universel grâce au sang d'un homme.
Passionné de serpents, Tim Fried s'est injecté pendant 18 ans plus de 800 doses de venin provenant de toutes sortes d'espèces potentiellement mortelles, comme le cobra ou le taipan. Et son histoire a intéressé des chercheurs américains dans le cadre de la recherche d'antivenin. Son sang aurait déjà permis d'élaborer un sérum protecteur, selon une récente publication dans la revue scientifique Cell.
Mais de quoi est composé cet antivenin ?
Eh bien, on y retrouve une molécule déjà connue pour neutraliser les toxines dangereuses et 2 anticorps provenant du sang de Tim Fried. Et il s'est montré efficace contre 13 venins de serpents classés parmi les plus mortels au monde, ce qui est une avancée essentielle. À ce jour, les solutions proposées ne protègent que contre quelques espèces de serpents. Avec le sang de Tim Fried, les chercheurs espèrent parvenir à l'élaboration d'un sérum quasi universel. Si les tests se sont montrés concluants sur les souris, il faudra observer son efficacité chez les chiens avant de passer à des injections sur l'homme. Les hommes polluent-ils plus que les femmes? Une étude de la London School of Economics et du Centre de Recherche en Économie et Statistique confirme cette tendance en France.
5,3 tonnes de CO2 par an pour les hommes contre 3,9 pour les femmes dans les secteurs de l'alimentation et des transports, un écart moyen de 26% à niveau de vie égal, c'est ce que révèle une étude publiée mercredi dernier qui se base sur les données de 15 000 Français. Mais cet écart n'est pas spécifique à l'Hexagone. En Angleterre et en Suède, des études montrent des résultats similaires. Les hommes y polluent respectivement 41% et 16% de plus que les femmes.
Mais comment expliquer une telle différence ?
Eh bien, en partie par des facteurs socio-économiques. Les hommes mangent en général plus et effectuent des trajets professionnels plus longs. Mais une fois ces paramètres corrigés, 2 autres coupables font leur apparition : la viande rouge et la voiture. Encore aujourd'hui très associés à l'identité masculine, ils sont bien plus consommés par les hommes et aussi bien plus polluants. Aux États-Unis, une greffe de vessie a été réalisée avec succès sur un homme atteint d'un cancer.
C'est également une première mondiale. Début mai, Oscar Larenzar a reçu une vessie, mais aussi un rein, au cours d'une opération qui a duré 8 heures. Jusqu'ici, les greffes de vessie étaient considérées comme trop complexes. Le succès de cette opération pourrait donc marquer un tournant pour les malades souffrant de graves troubles de la vessie.
Mais alors comment les chirurgiens sont parvenus à réaliser cette première transplantation ?
Ils ont d'abord transplanté le rein, puis la nouvelle vessie, avant de les relier en utilisant une technique qu'ils auraient mis au point. Il leur a en effet fallu près de 4 ans de préparation avant cette opération. Et face au succès de cette dernière, d'autres devraient suivre dans le cadre d'un essai clinique pour évaluer les bénéfices et risques d'une telle opération. Et pour terminer ce flash coup d'œil dans le rétroviseur, c'était il y a tout juste 42 ans, le 20 mai 1983. Les premiers travaux sur le VIH sont publiés dans la revue Science.
Ce sont des chercheurs de l'Institut Pasteur en France qui ont isolé pour la première fois ce virus, responsable entre autres du sida. À l'époque, on ne connaissait pas encore le mode de transmission ni les moyens de se protéger de cette maladie mystérieuse qui allait faire plus de 40 millions de morts. L'identification du VIH a ouvert la voie à de nouvelles possibilités de compréhension et de lutte contre la maladie.
Et où est-ce qu'on en est dans la recherche de traitement aujourd'hui ?
À l'heure actuelle, il n'existe toujours pas de vaccin, mais grâce aux traitements antirétroviraux, le VIH n'est plus une fatalité. La vigilance reste quand même de mise. En France, 200 000 personnes sont séropositives, parmi lesquelles 24 000 ignorent encore leur statut. Si vous voulez en savoir plus sur le sujet, vous pouvez écouter notre émission « C'est pas faux, qu'est-ce que le VIH ?» en podcast sur phoenix.fm.
Vous écoutez « C'est pas faux » sur Radio Phoenix.
Reconnaissance faciale, identification de nos empreintes digitales ou du son de notre voix. Aujourd'hui, les technologies biométriques se sont largement immiscées dans notre quotidien, que ce soit pour déverrouiller nos téléphones, utiliser les assistants personnels intelligents comme Siri ou pour accéder à nos comptes bancaires. Mais alors, ces données biométriques sont-elles fiables ? Quels en sont les différents usages et comment préserver la vie privée des utilisateurs ?
Pour en parler, nous sommes aujourd'hui en compagnie de Christophe Rosenberger, professeur à l'ENSICAN et directeur du laboratoire grec. Bonjour.
Bonjour.
Alors, on a parlé rapidement de ce qu'est une donnée biométrique. On pense souvent qu'elle se résume à la reconnaissance faciale, à l'empreinte ou encore à l'ADN. Est-ce que c'est seulement cela ?
Non, il y a une multitude d'informations qu'on peut utiliser pour reconnaître une personne, que ce soit une partie du corps, hein, ce qu'on appelle une donnée morphologique. Donc, ça peut être la forme de ma main, les veines de ma main, ça peut être l'oreille. Donc ça, c'est tout ce qui est des parties du corps visibles, mais on a aussi tout ce qui est comportemental, donc la façon que je vais réaliser une certaine chose, la façon dont je vais parler, la façon où je vais marcher. On pourrait imaginer, j'ai déjà vu aussi des travaux sur la façon de jouer au poker en ligne, par exemple, où on peut essayer de reconnaître quelqu'un comme cela.
Et donc on fait une différence entre ces données plus physiques et comportementales ?
Oui, en fait, la différence, c'est que le comportement, on va pouvoir capturer ces informations de façon naturelle. C'est-à-dire, on va regarder comment une personne réalise une certaine tâche. Et alors que quand on fait une morphologie, en général, on va présenter son doigt à un capteur ou son visage devant un micro. Donc, il y a un acte plus volontaire hein, quand c'est morphologique, comportemental. On a une spécificité à Caen hein, depuis 15 ans où on travaille depuis très longtemps sur la reconnaissance des gens, leur façon de taper au clavier. Et il faut le savoir que à peu près 10% des cas sur Internet, hein, on analyse votre façon de taper au clavier. Donc, c'est quelque chose qui peut être fait à l'insu de la personne. Ce qui peut évidemment poser des problèmes de vie privée, mais qui aussi permet d'avoir un usage très simple.
Et alors, c'est quoi la différence entre une donnée biométrique et une donnée plus classique ?
Alors, en fait, une donnée biométrique, c'est quelque chose qui va avoir un certain nombre de propriétés. La première, c'est qu'en théorie, cette donnée ne doit pas changer au cours du temps. Alors, c'est pas tout à fait vrai pour notre visage, mais en tout cas, votre empreinte digitale n'évolue pas beaucoup au cours des années. Il y a évidemment l'intérêt de pouvoir l'utiliser pour différencier les humains. Évidemment, hein, il n'est pas totalement impossible d'avoir deux personnes avec la même empreinte digitale, mais en tout cas, c'est relativement unique. Hein. Et puis, évidemment, il faut que ce soit mesurable. On ne peut pas utiliser le QI ou le sens de l'humour d'une personne comme données biométriques.
Et donc, très concrètement, comment on identifie une personne, par exemple, notamment avec l'empreinte digitale ?
Eh bien, en fait, on va capturer des données hein, sur cette empreinte. Alors, ça peut être soit un acte volontaire, parce que vous avez mis votre doigt sur un capteur, hein, votre téléphone, un capteur, un contrôle frontière, par exemple. Et donc, on va capturer une information hein, qui va, en l'occurrence sur une empreinte, détecter les crêtes, donc qui sont ce que vous avez sur votre doigt. Et on va extraire de ces crêtes des caractéristiques hein, qu'on appelle des minuties sur les empreintes. Et à partir de ces minuties, on va pouvoir comparer les personnes en ne regardant que la position des minuties. En général, on n'utilise pas vraiment l'image des crêtes, sauf sur le téléphone, hein, où le capteur est en général de petite taille, et donc on n'a pas assez d'informations sur les minuties, donc on va utiliser l'image. Et donc, c'est un procédé qui est basé sur du traitement d'image, hein, et qui va faire une comparaison. Ça, c'est des choses qu'on sait faire depuis très longtemps, puisque les premiers travaux sur l'empreinte digitale, en tout cas d'un point de vue informatique, c'est dans les années 70, et donc on a une maturité très forte sur le sujet.
Et comment on fait pour différencier, par exemple, justement, une empreinte digitale, alors que c'est pas tout le temps la même position ?
Bah, en fait, justement, lorsqu'on fait plusieurs captures de la même empreinte, eh bien, on va avoir des images différentes. Ça, c'est normal. C'est aussi lié à comment j'ai posé mon doigt, chose que je ne peux pas contrôler. On ne peut pas contrôler la personne qui va le mettre d'une certaine façon. Et donc, justement, avec la position de ces minuties, qui sont des caractéristiques invariantes de la position, de l'orientation, eh bien, on va pouvoir détecter des schémas. On a tous vu des séries à la télé qui montrent ça, où on dit, voilà, il y a 2-3 minuties qui matchent, on a reconnu la personne. Dans la vraie vie, c'est un petit peu plus que ça.
Et donc, est-ce que les systèmes de collecte de données biométriques sont infaillibles, par exemple ? Est-ce qu'on est certain d'identifier la bonne personne avec une empreinte ?
Non, on n'est jamais certain parce que, en fait, il suffit juste simplement que la personne n'ait pas mis correctement son doigt. Si je prends l'empreinte digitale, on peut imaginer que la personne a taillé ses haies pendant le week-end et donc c'est un peu des petites blessures sur son doigt qui fait qu'on n'arrive plus à reconnaître son doigt. Donc il y a plein de choses qui peuvent interférer sur la reconnaissance. Ceci étant, c'est quand même quelque chose qui est assez intéressant comparé à l'ADN. L'ADN qui est évidemment en général une des preuves reines d'identité, mais l'empreinte digitale, le visage maintenant commence à avoir une certaine unicité, on arrive quand même à avoir des bonnes confiances. Alors évidemment, dans des applications de sécurité, on ne peut pas être sûr à 100%, ça n'existe pas le sûr à 100%, donc on a une probabilité qui est très forte, et en tout cas on sait que c'est quand même très difficile d'attaquer une personne sur l'empreinte ou sur le visage, mais c'est possible bien sûr.
Quelles sont les principales applications de la biométrie ?
Eh bien, en fait, il y en a beaucoup, hein, vous l'avez dit. Une application qui est devenue maintenant très classique, c'est le paiement. Hein. Vous avez tous un téléphone dans vos poches. Bien souvent, les gens utilisent la biométrie principalement pour éviter que quelqu'un d'autre puisse accéder à son téléphone et à ses données personnelles. Donc, en général, on va utiliser la reconnaissance faciale ou l'empreinte digitale. Donc ça, le paiement, les accès à mes données, il y a évidemment toute l'application contrôle régalien, c'est-à-dire le contrôle d'identité, soit pour passer les frontières, soit un contrôle de police, par exemple, où on va faire ça. Mais il y a des usages qui sont pas forcément des usages de sécurité. Par exemple, vous avez des cantines dans des écoles primaires ou des collèges où on va regarder la forme de la main. J'en ai vu dans la Manche il y a pas très longtemps, la forme de la main, pour reconnaître la personne, et ça permet d'éviter d'avoir géré des badges, parce que les badges pour les enfants, bah, on peut les perdre, etc. En général, la main, on l'a toujours, et donc on va juste mettre la main et on va reconnaître la personne. Donc il y a des usages sécurité, mais il y a aussi des usages pour simplifier justement la gestion des identités et éviter d'avoir à gérer des cartes.
Et donc, vous le mentionnez à l'instant, la biométrie, elle est aujourd'hui répandue dans notre quotidien. Mais est-ce que c'est une technologie qui est récente ?
Alors, l'histoire, en fait, la biométrie et l'empreinte digitale a été utilisée il y a très très longtemps, il y a plusieurs siècles, hein, dans des cas de commerce où les gens utilisaient la forme de l'empreinte sur de la glaise, etc., pour prouver que c'était bien la bonne personne. On a tous vu, alors c'est pas tout à fait des données biométriques au sens qu'on l'entend, les sauts de cire sur des correspondances, on va avoir une trace de la bague qui est une trace qui me permet d'identifier. Après, au début du 20e, hein, il y a eu des usages plutôt pour des affaires criminelles, pour essayer de reconnaître des personnes ou identifier des personnes à partir de l'empreinte. Mais on pouvait aussi utiliser d'autres sources d'informations, le visage ou des traces de la main, de la paume de la main. Ça, c'est des choses qui ont déjà été utilisées depuis très longtemps. Évidemment, avec l'ère moderne de l'informatique, depuis les années 70, il y a un essor de la biométrie, au début par la voix, l'empreinte digitale, et puis avec les avancées de l'IA, beaucoup maintenant sur toutes les modalités, hein, sur toutes les informations qu'on peut collecter, avec des choses qui sont devenues extrêmement performantes, comme la reconnaissance faciale, par exemple.
Et vous mentionniez tout à l'heure le comportement et l'étude que vous réalisez au grec, donc sur la reconnaissance avec la manière de taper sur un clavier. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu de cette étude?
Oui, ça fait très très longtemps qu'on travaille sur le sujet. Il faut savoir que ça existe depuis 1980, une étude qui a été faite par une entreprise américaine qui avait testé sur 6 secrétaires de voir est-ce que si la personne tape la même chose, j'arrive à différencier la façon de taper. Alors, la façon de taper au clavier, on peut la mesurer de 3 façons. Il y a une première façon qui est de mesurer la vidéo de la personne lorsqu'elle tape au clavier. Donc ça, c'est une information visuelle. Donc ça, c'est des choses qui peuvent être faites. Il y a des choses aussi qui intéressent pas mal la police, entre parenthèses. C'est le son des touches. Quelqu'un est en train de taper au clavier, on va mesurer le son. Et à partir de ça, on va vouloir identifier qui est en train de taper au clavier et si possible, ce que la personne est en train de taper. Ça a eu un intérêt récent pendant le Covid, puisqu'il y avait des gens qui faisaient des visios, on les entendait taper au clavier, la question qui se posait certains chercheurs, c'est est-ce que la personne qui est en train de taper au clavier, elle est en train de taper quelque chose qui est en lien avec la réunion, ou elle est en train de faire autre chose? Bon, ça c'est la deuxième solution, et la troisième solution, ce sont des temps. Lorsqu'on tape sur un clavier, on va avoir des temps qui vont être mesurés, qui vont être combien de temps je suis resté appuyé sur une touche. L'ordinateur, il a besoin de savoir qu'on a appuyé sur une touche, ne serait-ce que pour afficher la lettre à l'écran. Et là, on va mesurer des temps. Combien de temps on reste appuyé, combien de temps on met pour relâcher une touche, etc. Et donc, avec ces informations de temps, on peut reconnaître une personne. Donc ça, nous, ça fait plus de 15 ans qu'on travaille sur le sujet, où on a montré des solutions de sécurité, par exemple pour protéger l'accès à votre PC. Quelqu'un connaît votre mot de passe, vous tapez d'une certaine façon, eh bien, on va regarder votre comportement de saisie de ce mot de passe. Et si quelqu'un essaie de vous attaquer, et on fait des TP avec des étudiants tous les ans sur le sujet, eh bien, on voit que la signature, elle est très différente. Donc ça, on peut assez facilement détecter que la personne n'est pas la bonne, mais avec la façon de taper au clavier, de façon très surprenante, au vu de toutes les activités qu'on a eues jusqu'à présent, on peut faire plein d'autres choses. On peut faire aussi du profilage, c'est-à-dire détecter à votre façon de taper au clavier si vous êtes un homme ou une femme, si vous êtes droitier ou gaucher, ce genre de choses. Alors évidemment, on n'est pas à 100%, mais on a quand même des informations sur la personne, et ça peut être utilisé à plein de fins, bien sûr. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est les applications sécurité. Et donc, par exemple, je sais que la personne est une femme, et ce que je détecte, c'est que c'est un homme qui est en train de taper au clavier, je me dis, c'est une attaque. On peut avoir des applications aussi, sur lesquelles on a travaillé. Il y a une start-up qui a été créée sur le sujet, d'ailleurs, en Norvège, avec des collaborateurs. C'est, est-ce que je suis en train de chatter, par exemple, avec une jeune femme de 14 ans ou pas? Donc tout ce qui concerne la protection des enfants sur Internet, où on va vérifier la cohérence du profil que la personne affiche et le profil que nous on détecte. Et donc on a, en ce moment, j'ai des étudiants qui travaillent sur ce sujet, d'ailleurs, c'est des étudiants de l'ENSICAN qui ont fait un projet d'étudiants à l'ENSICAN et qui sont en train de faire un stage en Malaisie sur le sujet. Donc il y a des applications de ce type-là, sécurité, il y a des applications aussi qui sont pas forcément des applications de sécurité. Il y a des chercheurs qui ont travaillé sur l'émotion. Est-ce que la personne est stressée? Est-ce que la personne est joyeuse? Et donc, on le sait bien. Je veux dire, le fait de taper au clavier, c'est de réaliser une certaine tâche. Si on est stressé, on va faire plein de fautes de frappe et ce genre de choses. Et donc, ça, c'est des choses qu'on peut détecter et éventuellement, il y a des chercheurs, et notamment aux Grecs, qui essaient de regarder dans quelle mesure ça peut être utilisé pour détecter la dépression, d'avoir un comportement d'une personne qui est inhabituel et qui pourrait être un signe d'alerte quelque part. Donc des applications, il y en a énormément. Je vous en fais une dernière et puis j'arrête de parler. Il n'y a pas très longtemps, on a eu le Covid. Et pendant le Covid, il y a eu des formations à distance, mais il y a eu aussi des examens à distance. Et tricher un examen à distance, c'est pas spécialement très compliqué. Et donc, il y a une entreprise qui nous avait contacté avant le Covid pour dire, est-ce que vous pouvez pas faire un système pour détecter les fraudes? Et donc, on a développé un système qui va analyser la caméra, qui va analyser le micro de l'étudiant. Et qui va regarder aussi la façon de taper au clavier. Donc, en gros, on va regarder, est-ce que la personne qui est en train de passer l'examen à distance, est-ce qu'elle tape comme la personne qui a suivi la formation? Et donc ça, c'est quand même assez difficile à masquer. Et donc, on regarde aussi le visage, on regarde aussi la voix, enfin le son, pour identifier des voix, si je suis en train de discuter avec quelqu'un, si je sens du papier froissé, avec ce genre de choses. Et donc ça, c'est un système qui a été développé dans le cadre d'une thèse à Caen, et qui est maintenant un produit, et qui est utilisé par une société parisienne, et qui est utilisé tous les ans. Alors, je suis désolé hein, de vous apprendre ça, mais on est plutôt bien capable de vous détecter lorsque vous fraudez. Et j'ai eu des étudiants de master dans le cadre d'un TP, je leur ai dit, je vous donne mon bureau, je vous mets le système, vous trichez, vous essayez de tricher, et mon étudiant, il a essayé d'analyser un peu les données. Sur les tests qu'on a faits, hein, on a réussi à détecter toutes les attaques. Mais ce qui n'est pas une garantie, hein, évidemment, en sécurité, rien n'est sûr à 100%.
Vous écoutez C'est pas faux sur Radio Phoenix.
Vous êtes toujours sur Radio Phoenix à l'écoute de C'est pas faux. Nous sommes avec Christophe Rosenberger pour parler de la biométrie. Alors, est-ce que les données biométriques peuvent venir remplacer les autres types de données d'authentification, comme les mots de passe, par exemple ?
Oui, bah c'est un peu la tendance à l'heure actuelle. Hein. On utilise de moins en moins les mots de passe et de plus en plus soit des choses qui sont liées à mon téléphone, soit de la biométrie. Et bien souvent, on essaie de coupler ces deux informations parce qu'on sait que le téléphone, c'est quelque chose d'important, que tout le monde a précieusement à côté de soi. Je vais m'authentifier, non pas un site sur Internet, mais je vais m'authentifier auprès de mon téléphone, soit par la reconnaissance faciale, soit par l'empreinte, c'est ce qu'il y a de plus utilisé. Mais il est possible d'utiliser plein d'autres solutions. Nous, on a développé dans le passé, par exemple, des techniques qui permettaient d'analyser comment vous saisissez un chemin secret. Vous savez, sur certains téléphones, vous faites un chemin. Eh bien, on peut évidemment reconnaître la personne avec ce chemin, mais on peut aussi regarder comment elle fait ce chemin. Et donc, on peut analyser la vitesse, la pression. On peut analyser comment je tiens mon téléphone, donc les accéléromètres hein, qui vont mesurer l'orientation de mon téléphone. Et tout ça, ça va me donner un petit peu comme la façon de taper au clavier, hein, des informations sur mon comportement lors de la saisie de ce chemin secret. Donc il y a de plus en plus de solutions et je pense que maintenant la biométrie est un candidat très clair et très largement utilisé pour remplacer les mots de passe qui sont pas des façons très sympathiques hein, d'utiliser parce que la plupart des gens, soit ils ont qu'un mot de passe, soit ils en ont pas. Et ça, je montre ça aux étudiants assez souvent, qu'on peut faire tout un ensemble d'attaques hein, sur les mots de passe assez simplement, parce que les gens l'utilisent mal. Et en fait, évidemment, utiliser une donnée biométrique, ce n'est pas une garantie de ne pas être attaqué. C'est juste que c'est beaucoup plus difficile de récupérer l'empreinte digitale de quelqu'un que récupérer son mot de passe.
Et les données biométriques, c'est des données qui sont particulièrement sensibles, parce que contrairement à un mot de passe, on ne peut pas les changer. Mais comment on fait pour les protéger alors ?
Alors il y a évidemment, c'est une donnée personnelle, c'est une donnée ultra sensible car non révocable, non modifiable effectivement. Il y a plein de solutions hein, qui existent pour faire ça. Il y a essentiellement deux solutions. Hein. Il y a des solutions logicielles où on va utiliser de la cryptographie, hein, donc une façon de protéger ces données. Donc il y a plusieurs solutions qui existent et nous on travaille aussi sur ce type de choses, soit par des algorithmes qui vont protéger ces données biométriques, soit aussi pour avoir des protocoles pour que les données que je vais envoyer à partir de mon empreinte soient des données qui vont changer à chaque fois que je vais faire une transaction pour éviter que quelqu'un intercepte et puisse le rejouer. Donc ça c'est des solutions logicielles et il y a évidemment des solutions matérielles, ce que vous faites tout le temps dans votre téléphone, hein, vous ne le voyez pas. Mais vous avez ce qu'on appelle un élément sécurisé dans lequel vont être stockés votre visage et votre empreinte digitale et qui va limiter les attaques. Hein. Encore une fois, on n'empêche pas les attaques, mais en tout cas qui va limiter de façon forte les attaques pour que mes données soient stockées quelque part dans un endroit sécurisé. Et lorsque je vais m'authentifier auprès de mon téléphone, eh bien, je vais comparer ces informations, mais dans un élément sécurisé. C'est ce qu'on fait, nous, dans la vraie vie. Hein. Quand on a beaucoup d'argent, on va mettre l'argent dans un coffre. Eh bien, on a l'équivalent sur les éléments sécurisés sur les téléphones.
On parle là du fait que les données biométriques sont quand même plus performantes que les mots de passe, par exemple, pour protéger nos données. Mais par exemple, avec la reconnaissance vocale avec Siri ou Alexa, est-ce qu'avec les avancées de l'intelligence artificielle, c'est toujours viable comme méthode d'authentification ?
Alors, l'intelligence artificielle va permettre de développer des systèmes biométriques plus performants, mais l'intelligence artificielle va aussi développer des attaques de plus en plus performantes. Donc on est toujours dans une guerre un petit peu du gendarme et du voleur, hein, l'un essayant de trouver des solutions pour mieux sécuriser l'accès à mes données et l'autre pour pouvoir mieux attaquer. Donc en fait, on est toujours dans cette lutte constante. Il y a effectivement des contre-mesures qu'on peut rajouter, par exemple sur la voix, en disant au lieu d'enregistrer par exemple mon mot de passe de façon vocale, pour que ce que je vais envoyer, ce sera toujours la même chose, on peut imaginer que le serveur me dise, tu dois dire telle phrase, et cette phrase va changer à chaque fois. Donc ça évite ce qu'on appelle le rejeu. Mais effectivement, maintenant, avec l'IA générative, hein, on est capable de générer du son avec une certaine voix, avec un certain timbre, et qui pourrait justement éviter éviter d'être... sécurisé. Et donc, c'est toujours pareil. On développe des outils qui sont basés sur IA qui vont détecter le fait que le contenu qu'on nous envoie est un contenu généré et non pas un contenu réel. Donc pour ça, il y a évidemment plein de solutions. Par exemple, lorsque vous enregistrez une voix, vous avez malgré tout un petit bruit qui est lié au capteur, et ce bruit, on va pouvoir essayer de le détecter. Donc maintenant, les IA génératives essaient de reproduire ce bruit de capteur. Donc c'est toujours une bataille. De toute façon, ce qu'on veut, c'est donner des garanties. Et ce qu'on veut aussi, c'est rendre la tâche la plus difficile possible pour un attaquant. Donc là, le problème, c'est que l'IA est maintenant sur étagère. N'importe qui est capable de générer une image, un texte, mais aussi un son. Donc c'est vraiment la complexité. Mais on a des solutions. Et puis, faut pas oublier que en général, on va aussi utiliser un matériel. Par exemple, on connaît le smartphone de la personne. On peut aussi introduire des informations qui sont liées au matériel, que évidemment l'IA générative n'a pas. Donc c'est de plus en plus difficile de se confronter avec les avancées d'IA, mais à contrario, on a aussi de plus en plus d'outils performants pour essayer de détecter ces attaques.
Et c'est quoi les conséquences concrètement en cas de vol de données biométriques ?
Alors, en cas de vol de données biométriques, évidemment, les conséquences sont assez importantes parce que, comme vous l'avez dit, on ne peut pas modifier ces données. Sur une empreinte digitale, c'est compliqué parce que, on va changer de doigt. Et donc ça, c'est la solution facile. Mais vous voyez qu'on n'a que 10 doigts, donc on a une certaine limite. Sur la voix, ça, c'est assez compliqué parce qu'on ne peut pas vraiment changer de voix. La façon de taper au clavier, par exemple, en général, on va avoir une façon de taper au clavier qui est liée au mot de passe. Donc on peut changer le mot de passe. Donc en fait, en général, ce qu'on essaie de faire dans les systèmes d'aujourd'hui, on n'essaie jamais de stocker la donnée biométrique brute, c'est-à-dire que l'empreinte digitale, on ne la stocke jamais, parce que on ne sait pas si ce stockage, il est sûr ou pas. Donc ce qu'on va stocker, c'est soit au pire, par exemple sur l'empreinte des minuties. On va se dire que les minuties, c'est un peu moins sensible. Bon, ceci étant, avec l'IA générative, étant donné des IA, étant donné des minuties, je suis capable de vous générer une empreinte qui aura ces minuties. Ça pose pas de problème, ça, malheureusement. Mais on essaie plutôt de stocker des signatures qui sont protégées avec des clés cryptographiques. Et donc ça, c'est pour éviter justement d'avoir ce type de problème. Et puis, on utilise ce que je vous disais tout à l'heure, les éléments sécurisés, pour que, évidemment, ce soit assez difficile pour un attaquant de récupérer cette information. Récupérer une information sur votre téléphone, c'est pas très compliqué. Récupérer une information sur un élément sécurisé, là, c'est beaucoup, beaucoup plus compliqué à faire.
L'usage des données biométriques, c'est un sujet qui est assez controversé. Certains craignent la mise en place de surveillance généralisée, notamment avec la technologie de reconnaissance faciale. Alors, est-ce que c'est possible d'utiliser des données biométriques tout en préserver la vie privée des personnes ?
C'est ce qu'on essaie, nous, de faire depuis 15 ans, de travailler sur la biométrie qui permet de répondre à des enjeux de sécurité, tout en essayant de protéger la vie privée des gens. Je vous disais tout à l'heure l'exemple de la surveillance d'examen à distance. Ce qu'on va mesurer, c'est des informations sur la façon de taper au clavier, le visage, et d'autres informations qu'on va collecter, par exemple une adresse IP, quelque chose qui va être lié à l'ordinateur. Et on va protéger tout ça pour que le service, lui, il puisse comparer les informations qu'on lui donne. Mais lui, le service, il n'a aucune idée de ce qui a été calculé. Lui, il a juste une information qui est une signature, et cette signature, il va pouvoir la comparer pour savoir si c'est proche ou si c'est pas proche. Donc nous, c'est ce qu'on essaie de faire. Il y a a tout ce qui est règlement RGPD qui va permettre de garantir et donner des contraintes législatives sur l'usage des données biométriques. Les solutions commerciales essaient d'intégrer cette notion de vie privée parce que, effectivement, c'est quelque chose qui est dangereux, mais qui peut être très utile. On pourrait faire le parallèle, j'ose, hein, ce parallèle avec le nucléaire, qui est évidemment essentiel pour faire marcher l'électricité et tous nos équipements, mais qui a aussi tout un ensemble de risques très clairs. Donc, en fait, nous, on essaie de développer dans les solutions, et les industriels le font aussi, hein, des solutions qui vont protéger nos données d'un point de vue sécurité, mais aussi d'un point de vue vie privée. Et puis après, il y a les lois qui vont encadrer ce qui est possible et ce qui n'est pas possible. Vous allez savoir qu'à l'heure actuelle, hein, vous savez, sur les données biométriques, y compris pour des applications police ou gendarmerie, il y a des limitations sur l'accès à ces données biométriques. Alors que parfois, on pourrait se dire, essayer de trouver un criminel sur des enfants, est-ce que cette législation-là, elle a toujours un sens? Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est un débat de société.
Et malgré ces limitations, est-ce qu'aujourd'hui il y a des dérives? Est-ce que malgré tout il y a des données qui sont récoltées ou utilisées à notre insu?
Alors sur les données biométriques de type morphologique, etc., je pense que il y a toujours des attaques. Hein. Il y a des gens qui essaient d'attaquer des bases de données de mots de passe. Et évidemment, ils essaient d'attaquer aussi des bases de données biométriques. Ça, c'est évident. Après, il faut savoir aussi ce qu'on entend par données biométriques. Si je prends toutes les données sur mon comportement sur un réseau social, les likes, les commentaires, etc., qui décrit quelque part mon comportement, peut-être mes opinions politiques, mes opinions religieuses, eh bien, on a vu malheureusement tout un ensemble d'attaques récentes pour essayer d'exploiter ces informations, pour essayer de dévier mon vote, par exemple, à une élection. Et donc, on voit bien que ça, c'est malheureusement quelque chose qui est fait très, très couramment. Et les gens, souvent, donnent ces informations sans se rendre compte de donner des choses assez sensibles. D'accord ? Et donc, est-ce que la biométrie, au sens morphologie, visage, etc., donne plus d'informations ? Moi, à titre perso, j'en suis pas persuadé. Malheureusement, je pense que si on veut identifier une personne, on n'a même pas besoin de données biométriques. On sait très très bien le faire, rien qu'avec des données techniques, c'est-à-dire votre adresse IP. On a tout un ensemble de choses qu'on peut collecter sur votre navigateur, où on arrive très très bien à vous identifier. Alors, je sais pas si ça doit vous rassurer, mais donc voilà, la biométrie, je pense qu'elle peut avoir un usage intéressant. Et il y a des solutions. Après, il y a des usages où effectivement, il faut sans doute faire attention. On a vu les dérives sur l'ADN. Hein. L'ADN, ça peut être un outil extrêmement intéressant pour prouver l'innocence, on va dire ça comme ça, l'innocence d'une personne à partir d'une trace ADN. Mais vous voyez qu'avec l'ADN, par exemple, on a aussi tout un ensemble d'informations qui vont être les probabilités que vous ayez telle maladie, les liens de parents avec l'ADN, des choses qui vont être sur votre génétique, qui peuvent poser parfois problème également. Donc en fait, il y a des risques, ça c'est indéniable, mais il y a quand même des contre-mesures et puis il y a des législations qui permettent d'éviter qu'on fasse un peu n'importe quoi. Sur ce sujet-là, on est quand même très contraint en Europe, en tout cas. Je pense que dans certains pays, c'est un peu moins le cas, ou en Asie, au Moyen-Orient, etc. La législation sur les données biométriques ne sont pas du tout les mêmes et on peut faire beaucoup de choses. En Inde, vous avez à l'heure actuelle, par exemple, la plus grosse base de données biométriques au monde, hein, avec plus d'un milliard de données biométriques qui sont concentrées dans une base de données. Et si on a un jour cette base qui est attaquée, on a un huitième de la population mondiale où on a leurs données biométriques et qui ne peuvent pas changer. Et donc, il y a effectivement des risques, mais comme toute technologie, malheureusement.
Merci beaucoup, Christophe Rosenberger, d'être venu à notre micro. On le rappelle, vous êtes professeur à l'ENSICAN et directeur du laboratoire grec. Bonne journée à vous.
Merci de votre accueil.
Vous écoutez C'est pas faux sur Radio Phoenix.
C'est pas faux, c'est bientôt terminé, mais avant de se quitter, voici l'agenda de la semaine. Cette semaine, c'est la semaine du développement durable à Cormel-le-Royal. Du 21 au 27 mai, retrouvez des animations gratuites et variées pour tous les âges. Par exemple, demain, visitez une usine de l'Orne à 14h, rendez-vous à l'espace cormélien pour un bar à eau à 16h30 ou bien apprenez à entretenir du compost à 18h. Vous pouvez retrouver tout le programme et les infos de réservation sur le site de la ville de Cormel-le-Royal.
pour la 19e édition de la Fête de la Nature, le CPIE Vallée de l'Orne et le Conseil départemental du Calvados vous proposent l'animation Des petites bêtes en vois-tu, en voilà. Lors de cette sortie nature réservée au jeune public dès 5 ans, vous découvrirez la vie aquatique dans l'espace naturel sensible de la vallée de l'Audon. Alors rendez-vous demain, mercredi 21 mai à 14h30 à Verson. C'est gratuit et les réservations se font à l'adresse ens14@cpievdo.fr ou au 07 83 10 01 29.
Et enfin, samedi 24 mai, le Dôme vous donne rendez-vous pour son atelier Spipole, devenez un paparadis des insectes pollinisateurs. Venez découvrir le rôle des insectes et apprenez à les identifier. En les photographiant, vous contribuerez aussi à la recherche scientifique sur la biodiversité de nos villes. C'est ce samedi à 14h et c'est gratuit. Vous pouvez vous inscrire depuis le site du Dôme. C'est pas faux, c'est terminé pour aujourd'hui. Vous pouvez réécouter cette émission et les précédentes en podcast sur phoenix.fm.
Merci à Émile à la technique, on se retrouve la semaine prochaine et dans quelques instants, rendez-vous avec Bastien pour La Méridienne. Passez une bonne journée sur Radio Phoenix.